la réveille à Zinchal. Boisé sur le slide, la musique zag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Savoir ce qui se passe chez toi, c'est le fun, mais t'as fait le tour pas mal vite, pis t'es peut-être curieux de savoir ce qui se passe ailleurs aussi.
Chez le voisin, c'est ton émission d'actualité internationale où on te garde les moments forts et inusités de la semaine qui se sont passés partout autour du globe. Animé par deux globe-trotteurs de salon attachant, on te promet de te faire voyager sans trop terminer.
Chez le voisin, c'est les mardis de 13h à 14h sur Chiz 94.3.
Voyons, comment ça marche pas? Hey Sophie, essaye donc de chasamer la toune qui joue à radio.
Ça dit que c'est... Cain!
Cain? Hey boy, on est loin d'embarque ma belle.
Quand vous vous demandez...
C'est quoi cette toune-là?
Ne faites pas comme Adrien et Sophie. Allez plutôt sur chiz.ca et cliquez sur l'onglet Musique diffusée. Bonne écoute!
Salut, ici Claude Bégin. Vous écoutez Chiz 94.3.
Il est 4 heures.
Salut tout le monde, il est 16h, on est le jeudi 29 juillet et aujourd'hui j'anime seul, c'est ma dernière animation juste avant mes deux semaines de vacances et après ça, ben, je vous laisse entre les mains de Gabriel Arcand pour la semaine prochaine. Demain on prend un congé mais aujourd'hui on a une belle heure et demie de prévu. Je vais recevoir Elisabeth Dumont au téléphone pour parler de Sans mur ni billet. Je vais vous faire écouter beaucoup de musique qu'on n'a pas eu le temps de faire jouer dans le dernier mois parce qu'il y a eu beaucoup de sorties. Évidemment on était sur la route avec les festivals. Je vais recevoir aussi Rénald Lessard, qui est archiviste coordonnateur aux Archives nationales du Québec à Québec pour nous parler du 100e anniversaire des Archives nationales du Québec et ben de l'exposition qui est organisée en cet honneur. Je vais aussi recevoir Alex T. Lamarche pour me parler d'architecture et de paysage, des livres qu'il a puisés dans les presses de l'Université de Montréal. L'émission de Chérie J'arrive, spéciale d'avant-vacances de Félix, ben ça commence maintenant. On va y aller aussi en musique avec Julian. Il commence à release un peu des singles pour un album qui s'en vient. On suppose cet automne, il y avait Do Anything, il y avait Run Around et maintenant je vais vous faire entendre Chains. Évidemment, quand je l'avais eu en entrevue, il me parlait que lui, quand il fait de la musique souvent et même quand il est temps de faire la promotion de son album, il voit des couleurs associées à sa musique. Do Anything, c'était le rouge. Run Around, quand on s'était parlé, c'était le jaune orange. Et là, avec Chains, je suppose avec la pochette que c'est un mauve fuchsia, un mauve qui se rapproche tranquillement du rose, mais je vous laisse écouter cette chanson-là qui s'appelle Chains, si jamais ça vous fait penser à cette couleur-là. Au retour, je vous parle de Sans mur ni billet avec Elisabeth Dumont, qui est la responsable des communications du théâtre Labordé. Vous écoutez Chérie J'arrive sur les ondes de Chiz 94.3.
Doesn't matter, take them off in their face. Let them see you step out of your comfort zone. Some people in my life took me for a ride, pretending to be wise while lighting up a fire underneath. It's something crazy, but I won't be living in chains just to be free. I won't keep hearing them say, give me just a little more for your own good. Is it ever gonna be enough? Maybe I should know better. So take them off with me. Bright, a diamond in the rough. Yeah, it's always been a really tough ride.
Let them see you shine when they lose control. Someday you will fall from your pedestal. Down there on the cold ground, remember what they told you and me. No, I'm not evil for wanting to be me. It's something crazy, but I won't be living in chains just to be free. I won't keep hearing them say, give me just a little more for your own good. Is it ever gonna be enough? Maybe I should know better. Yeah, maybe I should know better. Crazy, but I won't be living in chains just to be free. I won't keep hearing them say, give me just a little more for your own good. Is it ever gonna be enough? Maybe I should know better. Yet I'm always in the middle of a battle with chains. Just let me out. Something, that one thing, yeah, help me help you. Even if I liked it, that lie is not worth believing. Give me that something, that one thing, yeah, help me help you. Even if I liked it, that lie is not worth believing.
Vous êtes de retour à l'émission Chérie, j'arrive. Et c'est déjà tout pour Julianne, il voulait continuer, mais c'est terminé. Et on est maintenant avec Elisabeth Dumont, qui est responsable des communications au Théâtre Labordé, pour parler du projet Sans murs ni billets. Salut Elisabeth Dumont, ça va bien?
Merci, toi.
Oui, excuse-moi, je reviens à la console, excuse-moi. Donc, salut, ça va bien?
Contente de pouvoir vous parler, en effet, du projet. Là, c'est une deuxième édition, là, pour ceux qui ne le savaient pas.
Oui, bien justement, cet événement qui revient en force cette année, c'est 16 organismes qui participent, c'est 11 stations à découvrir. Il y a des murales, il y a des capsules vidéo, il y a des fresques avec balado, il y a des œuvres sculpturales. Il y en a vraiment pour tous les goûts et toutes les formes d'art. Ça vient d'où, cette initiative culturelle-là?
La première édition qu'on a faite, c'était vraiment c'était les responsables de la médiation culturelle de plusieurs organismes qui, elles, avaient à travailler ensemble sur d'autres dossiers, puis elles ont décidé de nous proposer de faire une activité commune qui rassemblerait les organismes en art vivant.
Ouais.
Pendant une période où est-ce qu'il se passait rien dans les théâtres, puis dans les studios de danse et tout ça. Fait que l'idée est venue de trouver une activité qui permettrait de garder les lieux d'art vivant actifs, même s'il se passait rien. Fait que le concept sans murs ni billets, c'est que tu peux y aller, t'as pas besoin de rentrer dans les murs, t'as pas besoin de billets, mais tu peux quand même vivre une expérience artistique reliée à l'institution que tu visites. Donc, c'est souvent des projets qui sont exclusifs à l'organisme.
Bien, c'est très bien expliqué, mais pour ceux et celles qui n'auraient pas eu la chance de participer à cette première édition de Sans murs ni billets, mis à part que c'est une initiative pour continuer à encourager les arts vivants, même en temps de pandémie, à quoi ça ressemblait, cette première édition-là?
La première édition, on était beaucoup plus petite. On était 6 organismes. Okay. On était vraiment une petite liste. Mais quand on s'est reparlé suite à ça, on a ressenti un réel intérêt des gens. Il y avait du plaisir à pouvoir aller marcher dehors, puis sortir, changer les idées, mais consommer de l'art. T'sais. On s'entend que durant la période COVID, on a sous-estimé un petit peu le travail des artistes, là, dans le sens où l'importance que ça a pour la santé mentale des gens et tout ça. Donc, l'idée, c'était d'offrir quelque chose qui allait permettre aux gens de ne pas virer fou en dehors quatre murs. Puis, ça avait bien pogné. On avait vraiment l'impression que les gens étaient au rendez-vous. Donc, on s'est reparlé, nous, au printemps, puis on disait, bon, est-ce qu'on refait ça? Est-ce qu'on étend l'invitation à d'autres mondes? Finalement, ce qu'on a décidé de faire, c'est de travailler avec la gang de Québec Spectacle qui, eux, ont étendu notre idée à plusieurs organismes en vivant, donc les 16 organismes qui participent participe en ce moment. Puis, on a aussi reçu une subvention. La Ville de Québec soutenait différents projets extérieurs durant l'été. C'est vraiment grâce à eux qu'on a réussi à, comme, je dirais, augmenter la quantité d'organismes participants. On est capable d'offrir des sous aux artistes qui sont derrière les œuvres d'art installées. Donc, tu sais, l'idée, c'est vraiment d'amener un peu de bonheur. C'est de montrer aussi que, tu sais, les organismes en art vivant, on fait front commun, on est tous, on se tient les uns les autres, on sait à quel point c'est important. Puis souvent, notre problème commun, c'est de faire réaliser aux gens que cette forme d'art-là, elle est accessible. Et moi, j'ai entendu tellement souvent de gens qui me disent « Ah non, moi, je vais pas au théâtre, je comprends rien là-dedans, là, c'est bien trop compliqué. Ben, c'est trop cher, ou ben, c'est pas pour moi, je préfère aller au cinéma. » Mais tu sais, des fois, juste d'arrêter de te dire que t'es supposé de vivre une expérience artistique d'une façon X, ça va t'aider à l'apprécier, puis peut-être la rendre plus abordable. Fait qu'en travaillant de cette façon-là, ben, on va aller toucher des gens qui seraient pas forcément venus chez nous, mm-hmm. qui sont en train de se promener, qui tombent sur un contenu qui les intéresse, puis qui vont peut-être les amener à aller découvrir autre chose de ce domaine artistique-là. Puis l'Opéra de Québec, on s'entend, là, il y a beaucoup de gens qui sont encore dans la vision, où est-ce que tu dois te rendre là en costume trois pièces, que c'est juste des grands classiques et tout ça. T'sais, l'Opéra de Québec, ils ont vraiment retravaillé une formule qui est beaucoup plus jeune. T'sais, ils ont la gang du Palais Montcalm aussi. T'sais, on a même le centre d'interprétation. Écoute, je vais te dire correctement pour pas les débaptiser, là. On a, parce que les autres, ils travaillent principalement avec le patrimoine. Mm-hmm. C'est le centre de valorisation du patrimoine vivant. Okay. Que je voulais pas débattre. Voilà. Eux autres aussi sont embarqués. Puis ils ont fait vraiment quelque chose relié à l'architecture de leur coin. Le Grand Théâtre aussi, ce qui est le fun, c'est qu'ils ont trois stations. Là. T'as l'Opéra de Québec, l'Orchestre symphonique et le Théâtre du Trident qui proposent dans le même lieu trois offres. Mm-hmm. C'est vraiment le fun là, de découvrir tout ça. Puis, on s'entend que c'est une bonne marche, mais l'idée, tu sais, quand on a fait notre première édition, la marche, ça se pouvait faire d'un coup, mais là, tu sais, c'est sûr que là, on traite la basse ville, on va aussi dans le Vieux-Québec, on va en Haute-Ville, mais mettons que les gens peuvent se dire, OK, on va faire ça une couple de fois, puis profiter complètement de leur expérience, là. Mm. C'est sûr que, tu sais, on n'est pas, je pense qu'on se situe en, comme activité pour enfants, mais il y a la gang des gros becs, par exemple, ouais. qui participe. Eux autres ont fait une activité qui est appropriée aux enfants. Fait que, c'est pour ça que je pense qu'il faut se donner la chance de le vivre, de voir si on aime ça.
Oui, tout à fait. Puis c'est assez intéressant ce que tu as dit plus tôt par rapport à peut-être aussi, pas nécessairement. J'aurais envie de dire absorber l'art de la même façon, peut-être être ouvert à voir, à changer sa perception de comment est-ce que on voit une pièce de théâtre, comment on va à l'opéra, d'être capable aussi ben, de justement de s'ouvrir à toutes ces formes d'art qui valent la peine d'être vécues puis d'être vues. J'aimerais ça avoir un peu, pas nécessairement des différences, mais qu'est-ce qui a été finalement ajouté cette année, mis à part le fait qu'il y a plus d'organismes qui participent à cet événement?
Bien, comme grâce au soutien de la Ville de Québec, on est capable, nous, de soutenir, d'offrir un cachet aux artistes qui sont derrière les différentes œuvres. On n'avait pas été capable de le faire pour la première édition parce que ça s'était organisé rien contre nous. Puis on avait essayé d'utiliser le plus possible ce qui était disponible sur le moment. Il y a aussi une quantité incroyable de contenu supplémentaire. T'sais, il y a des endroits où est-ce que tu as plusieurs balados qui sont disponibles. Il y en a que c'est un extrait, mais il y en a où est-ce que c'est 4-5. Là, fait que ça s'est augmenté de façon exponentielle en termes de contenu. Puis tous les contenus sont différents. Mm-hmm. Dans le sens où l'abordé pour la première édition, on avait une murale citoyenne qui s'appelait Soul, qui avait été réalisée par le duo photographe Atwood. Et cette fresque-là rassemblait des portraits de gens de la communauté. Tout ça. Il y avait des balados qui étaient reliés aux différents portraits. Puis, il y avait une première offre. Et là, tu vois, la deuxième qui est exposée à l'abordé en ce moment, c'est la gang de Camion Studio qui était ceux qui ont fait la projection visuelle lumineuse de nuit pour la première murale, donc celle de foule. Eux autres ont créé une infographie géante qui, inspirée du quartier, donne vraiment une vague d'été, je dirais, au quartier. Uh-huh. T'as la chance d'aller voir dans le coin, c'est franchement chouette. Puis fait que c'est ça, toutes les œuvres sont différentes, où il y a des contenus supplémentaires qui sont rattachés à ça.
Ben, ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'aller voir ça. Finalement, pour ce qui est du parcours, est-ce qu'il y a un ordre particulier à suivre? Est-ce que tu t'as un peu répondu dans une réponse précédente en disant que on peut faire le parcours en plusieurs voyages finalement? Est-ce qu'il y a un ordre à suivre au parcours?
C'est la beauté de la chose, c'est que tu peux partir douter puis t'en aller où tu veux. Là, il y a pas de, tu sais, il y a pas, mettons, une information dans le premier qui va te mener au deuxième. Tout est indépendant, fait que ça se fait très bien là, si vous voulez un après l'autre. Moi, ce que j'ai fait, c'est celui qui est le plus facile à faire d'un morceau, c'est vraiment la base ville, tu sais, puis le vieux Québec aussi. Tu sais, on a beaucoup beaucoup de choses. C'est franchement c'est franchement le fun de le découvrir, mais il ne faut pas se mettre une pression à se dire, OK, il faut tout que je fasse là, parce qu'on est ouvert jusqu'à... Toutes les expositions sont là jusqu'au 6 septembre. Puis en plus, il n'y a pas d'horaire. Donc, tu peux y aller avoir ce que tu veux à voir l'œuvre. Fait que c'est ça la beauté de la chose. Donc, moi, je dirais, amusez-vous, partez du bord qui vous tente, puis... Allez-y, bon cœur.
Puis c'est tout en liberté, comme le veut le titre, avec sans mur ni billet. Je laisserai conclure avec, finalement, toutes ces informations-là, c'est ce parcours-là qui est suggéré. Et pour avoir toutes les informations, comment est-ce que ceux qui nous écoutent peuvent avoir accès à toutes ces belles informations?
Grâce à la gang de Québec Spectacle, justement, ils nous ont construit un micro-site qui rassemble la carte du parcours, une description de chacun des organismes et de leur offre artistique. Donc, le site, c'est sansmurnibillet.ca. Sans mur, ni mur, ni billet, sans S, mettons.
Ouais.
Donc, sansmurnibillet.ca. On dirait que j'hésite, là. J'ai dit sans ou avec BS. Je suis sûre.
Mais ça peut être avec BS. Donc. C'est avec DS pour les deux.
C'est ça. Voilà.
Super.
Je suis désolée pour la
confusion. Ben sinon, juste écrire sans mur ni billet sur Facebook et tout devrait être trouvé très facilement. Merci beaucoup, Elisabeth Dumont, qui est responsable des communications au Théâtre Labordé, d'être venue me parler justement de ce super projet sans mur ni billet. Je vais te souhaiter un bon reste d'été puis que ce projet continue pour plusieurs autres années.
On espère. Écoute, c'est ça. On était quelques organismes souches. Là, ça augmente tranquillement. Fait que. Et nous, si les gens ils veulent nous écrire parce que ça leur tourne
d'embarquer, pourquoi pas? Super. On va les diriger vers le site web, vers vos médias sociaux. Merci beaucoup, Elisabeth Dumont, d'être passée à Chérie J'arrive.
Je te souhaite une belle fin de journée.
Salut.
Au revoir.
Bro, qu'on bosse devant, rien de facile, mais c'est un champion. Got me crying on the phone, j'entends la douleur dans sa voix. Le subit, faire attention, le sol est rempli de bonnes intentions. Signe de peace, signe de croix, garde la foi, garde la passion. Pourquoi moi, pourquoi toi, pourquoi toutes ces fucking questions. Tellement drink, mal au foie, par mes rapports, par mes notions. I need you, sous mon toit, need some change, même plus une option. Fun est fini, plus aucune joie, veux go up, mais là c'est profond. On ma maman, t'es la famille, le ventre plein, mais c'est le famille. Demande-moi pas pourquoi les yeux sont cernés. Nuit à tourner, t'es un corps hors, t'es adoré, you the man. Je feel ta peine, essaie de maintenir la vision pleine, yeah. I need you, oh. Pourquoi toi, aucune joie. T'es mon ding, all the fuck. Garde la foi, garde la foi. Le bro qu'on bosse dedans, rien de facile, mais c'est un champion. Got me crying on the phone, j'entends la douleur dans sa voix. Le subit, faire attention, le sol est rempli de bonnes intentions. Signe de peace, signe de croix, garde la foi, garde la passion. We'll be right back.
cause now I'm shaded blue. I'm not invincible. We're painted black. It's time to forget ever knowing you.
Shut the fuck up. Shut the fuck up. Cause I block drop. Take it from the top. Make it pop, yeah.
Miles made of daffodils. See the beauty, drink and kill.
Here in prison. Here in prison. Cause I'm a pop star. Feeling like that bitch on the top, yeah.
Miles made of daffodils. See the beauty, drink and kill.
Daffodil lover. Flashy like fuck, yeah. Look at my reflection. How could I love any other? On myself, I don't even wanna touch ya. Nasty with my nuns, yeah, for sin I'm such a sucker. Yeah, I live for status, the dormant see my magic. Worship me like a shrine, I'm your favorite fucking savage. I fantasize about myself, honey, what's up? I won't apologize for shit, shut the fuck up. Shut the fuck up, shut the fuck up. Cause I block drop, take it from the top, make it pop, yeah. Cause I'm a pop star, feeling like that bitch on my top, yeah.
Tous les aléas de l'épiderme. Enlève les étiquettes de nos deux corps épicènes. Baby, j'ai même plus de mains pour changer les vitesses. Slow dance horizontal en plein après-midi, ça c'est comme d'hab. 50 nuances de ton suntan, viens faire un tour dans mes sandales. Touche-moi, baby, j'ai get shaky comme un maracas. Groovy shit comme à la boss. Rainy day, je bois la tasse. Y'a ton nom écrit dans les lignes de mes grandes mains. Fais-moi l'amour comme s'il y avait pas de lendemain. Fais-moi l'amour comme s'il y avait pas de vie d'après. On recommence après la cigarette.
Fais-moi l'amour
Vous êtes de retour à l'émission Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Vous avez écouté un petit blitz de musique. On a commencé avec Lil Bro de Lewis Dice. C'est dans un rap hip-hop. C'est l'artiste de Québec, Lewis Dice, aussi connu comme étant un très, très bon DJ. Il faisait les derniers jeudis du mois accompagné de Ken Lo à la cuisine. Et là, il vient de sortir un EP de 5 chansons qui s'appelle Saphir. Et Lil Bro, je pense que c'est ma préférée de ce projet-là. Je vous ai aussi fait entendre The Foldist de Madeline, qui est une artiste américaine qui, elle aussi, est sur une lancée de singles. On attend son album, son projet. Je ne sais pas si c'est un album ou un EP, mais on attend son prochain projet avec impatience, tout comme le prochain projet de Virginie B, dont vous venez d'entendre la chanson Sexu. C'est avec Calamine, cette rappeuse aussi connue sous le nom de Julie Gagnon. Calamine, j'en ai parlé juste hier, puisqu'elle est arrivée deuxième au Francouverte. Elle était au festival de Baie-Saint-Paul. Elle est partout, on en parle beaucoup, et même Virginie B, qui, quand elle cherchait une collaboration pour cette chanson-là, elle ne pouvait laisser de place qu'à personne d'autre que Calamine. Elle a dit que c'est l'icône féministe musicale que j'aurais voulu avoir dans mon balado à 15 ans. On vient de backgrounds musicaux différents, mais on se rejoint définitivement dans le côté jazz et nos perspectives sur le monde. C'est très plaisant de travailler avec elle et ce n'est certainement pas notre dernière collaboration. Évidemment, Virginie B, on l'a eu en entrevue aussi plus tôt, il y a à peu près peut-être un ou deux mois, avant qu'on parte finalement sur la route des festivals, et on attend son album, elle aussi, avec impatience, qui va arriver en hiver 2022. C'est pas si loin que ça, c'est à peu près dans une demi-année. Et on a le droit à un deuxième single. Elle avait aussi fait paraître le 3 juin dernier The Love, qui est un premier extrait en anglais de cette artiste Virginie B, qui vient de Sherbrooke. Et elle dévoile justement aujourd'hui Sexu, qui est le second single, le second extrait sur le prochain long jeu qui est prévu, comme je viens de le dire, l'hiver 2022. Ça vaut la peine d'être écouté, d'être partagé. Il y a aussi Calamine, j'en ai parlé, mais j'ai d'autres choses à dire. Elle fait quand même partie des révélations Radio-Canada 2021-2022. Donc, c'est deux femmes qui sont de la relève musicale, mais qui valent la peine d'être encouragées, d'être écoutées. On va se laisser pour une pause publicitaire pour environ une minute. Au retour, je vous fais écouter la chanson Capozzo de l'artiste Beluga. Lui aussi, on l'a reçu en studio. On le salue, notre cher Louis Solem. Et tout de suite après, on va avoir une entrevue avec Rénald Lessard, qui est archiviste coordonnateur aux Archives nationales du Québec. C'est pour nous parler du 100e anniversaire des Archives nationales du Québec, nous parler de cette exposition. On va avoir plus de détails, évidemment, avec M. Lessard. Pour le reste de l'émission, il y a aussi Alexité Lamarche qui va venir me parler à 17h d'architecture et de paysage à travers des romans des presses de l'Université de Montréal. Il a puisé deux ouvrages, justement. Il va me l'expliquer. On va parler de vacances, évidemment, parce que moi, je quitte ce soir pour mes vacances à partir de demain. Je reviendrai le 16 août pour revenir... mieux reposer, revenir pour continuer cette chère émission Chérie, j'arrive, et je vous laisse entre les mains de Gabriel Arcan pour la prochaine semaine, lui qui va aussi aller au Festival de Caraquet en Acadie pour voir un peu la musique là-bas, avoir des entrevues. Bref, on y va en pause publicitaire. Vous écoutez Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3.
Saviez-vous que rap, ça veut dire rythme et poésie?
Le Beatnik Show.
Le show de rap avec le meilleur flow.
À Chiz 94.3, le lundi à 20h30.
Lundi 20h30.
Avec votre animateur, Nicolas Leclerc. Pour du bon hip-hop québécois, t'as pas le choix. C'est le Beatnik Show.
Merci, c'est le Beatnik Show.
Suivre l'actualité à tous les jours, c'est de la grosse job. Mais t'as quand même besoin d'un bon sujet de conversation sur ta terrasse pour pas avoir l'air trop bête devant ta date Tinder. Bonne nouvelle! Guillaume Bédard t'explique les sujets chauds de la semaine tous les samedis de l'été à partir de 17h. C'est tout ce que t'as besoin de savoir avant de sortir.
Sourire aux lèvres, un capot aux oreilles.
vouloir marier la lune, se fabriquer des ailes de plumes. Un cap aux eaux, là où les fortunes sur les îles. Un cap aux eaux, où les jours sont tranquilles.
Vous êtes de retour à l'émission Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Vous venez d'entendre Capozo du cher Beluga. Et c'est maintenant le temps d'avoir une entrevue avec Rénal Lessard, qui est archiviste coordonnateur aux Archives nationales du Québec, qui justement, eux, fêtent leur 100e anniversaire et organisent une exposition. Tout d'abord, bonjour, M. Lessard.
Oui, bonjour.
Je voulais aussi qu'on parle un peu de vous. Racontez-moi d'où vous venez. Qu'est-ce qui vous a mené à être archiviste dans la vie?
Très bonne question. Moi, je suis originaire de la Beauce, du sud de la Beauce. Et on fête le 100e anniversaire, mais moi, j'ai fait le tiers du 100e anniversaire.
Ah ouais?
Comme membre du personnel des archives et essentiellement au service au public à Québec. Mm-hmm. Donc, en Beauce, je m'intéressais plus aux sciences. Et à un moment donné, un cours ne s'est pas donné au secondaire et j'ai été obligé de choisir un cours en histoire.
Oh!
Quel malheur! Mais le prof, Roger Gagné, un prof qui mimait l'histoire, il m'a donné le goût. Puis là, je me suis mis à écrire aux archives. Je commandais des copies de documents. Je m'intéressais au premier Lessard qui est venu au Canada.
Ouais.
Et ça m'a donné le goût de l'époque de la Nouvelle-France. Et finalement, ça aboutit plusieurs années plus tard à un doctorat en histoire de la Nouvelle-France, ici à l'Université
Donc,
Laval.
Donc, c'est inattendu d'avoir choisi cette histoire-là. C'est par un cours qui a été annulé, puis vous avez dû choisir ça. Qu'est-ce qui alimente cette passion-là de l'histoire? C'est quoi qui vous passionne dans ce domaine-là?
Je pense que c'est le plaisir de découvrir.
Okay.
Il faut être curieux.
Ouais.
Puis l'histoire, c'est retrouver des traces du passé. Le
c'est
passé,
ça.
On peut plus... c'est terminé. Mais les traces du passé, essayer de leur donner un sens et... L'outil par excellence, c'est la recherche en archives pour retrouver des éléments, puis là, essayer de les faire parler. Dans mon cas, je me souviens, il y a un procès qui a eu lieu en 1670 qui impliquait mon ancêtre. J'ai pu le suivre pendant une journée. Imaginez-vous, à 17 ans, 16-17 ans, la fascination de me retrouver en 1670 à Québec, savoir qu'il est allé manger du fromage de, sur tel navire avec le capitaine, le chirurgien et d'autres personnes qui a bu du vin, qui est allé à une auberge, qui avait une chaloupe. Une chaloupe, à l'époque, c'était quand même à peu près 10 mètres de long, deux chambres. J'ai une certaine description de ce bâtiment parce qu'il faisait du cabotage. Donc, c'est pénétrer dans la vie des gens. Ça, je trouve ça fascinant. C'est de comprendre un peu comment ça se passait. Et donc, depuis mes 17 ans, donc, j'ai un goût pour l'histoire et particulièrement l'histoire de l'époque de la Nouvelle-France, mais toute l'histoire du Québec, c'est extrêmement intéressant.
Tout à fait. Bien, justement, on va continuer ce parcours-là. Vous avez dit que ça vous a mené à un doctorat en histoire. La suite des choses, ça ressemble à quoi?
Bien, c'est que mon doctorat, ça m'a pris 10 ans à le faire, okay, parce que je travaillais en même temps aux archives.
Okay.
Et c'était pas essentiel d'avoir un doctorat, mais je l'ai fait parce que j'avais le goût de le faire. Mm-hmm. Et je me souviens, j'avais aux alentours de 29-30 ans, puis je m'étais dit, peut-être qu'un jour, je m'aurais regretté d'avoir passé beaucoup de temps à faire un doctorat. Puis je me suis dit, non, je me dirais, j'ai eu un plaisir à le faire. Et depuis ce temps-là, c'est comme réglé. Je suis content d'avoir fait.
Ouais. Tu portais sur quoi, d'ailleurs?
Sur l'histoire médicale au 17e, 18e siècle,
okay,
en Nouvelle-France, mm-hmm, même un petit peu après la Nouvelle-France,
ouais,
donc jusqu'en 1788. Et ça aussi, c'est un univers assez fascinant,
ouais,
l'histoire des sciences.
Uh-huh.
Puis c'est ça, j'ai continué quand même à faire différents projets de recherche avec des gens en histoire ou même dans le milieu de la généalogie ou dans d'autres disciplines,
mm-hmm,
et je suis toujours un peu impliqué dans toutes sortes de choses.
Dans plein de projets en même temps.
Oui, puis lorsqu'on est curieux, c'est facile de s'intéresser à beaucoup de choses.
Ouais. Tout à fait. Et vous vous êtes intéressé, bien, entre autres, justement, à ces archives-là. Puis on peut maintenant rentrer dans le vif du sujet avec ce 100e anniversaire des Archives nationales du Québec. Vous m'expliquez hors honte que, évidemment, le 100e est en 2020, que vous avez décidé de reporter ça finalement pour le mieux, parce que avec des présentations virtuelles, vous avez eu accès finalement un plus grand public. À quoi ressemble ce déploiement du 100e anniversaire?
Bon, depuis à peu près trois ou quatre ans, on travaillait à différentes activités pour le 100e qui devait se dérouler en 2020. Et ça impliquait la tenue en réel, en présentiel, de journées d'études sur les archives judiciaires,
mm-hmm,
la publication de la revue À rayon vert sur l'histoire des archives nationales. Ça a eu lieu, ça a été publié en 2020. Vraiment, 10-15 activités différentes, des capsules qui ont été faites, des entrevues avec des donateurs d'archives, avec des profs aussi, puis des sujets, des fois, extrêmement variés. Il y a une capsule sur la barbe et la moustache.
Mais les modes de l'époque.
Oui, mais c'est un vecteur culturel intéressant. Et de voir comment ça, on évolue dans le temps, comment ça peut distinguer des classes sociales, etc.
Oui.
Et donc, il y a une petite capsule qui est assez fascinante là-dessus. Un sujet qui, un peu comme Laurent Turcot, des fois, aime bien exploiter. Ouais. Donc, ben oui, ça, on a fait ça. On travaille actuellement, entre guillemets, la grande conclusion, ça va être... c'est visé pour le Salon du livre de Montréal, une publication avec les publications du Québec, à peu près 240-250 photos parmi les plus belles qui illustrent un peu l'évolution du Québec en essayant de mettre l'accent sur les gens qui demeurent au Québec,
ouais,
qui ont bâti le Québec.
Mm-hmm.
Et donc, on a des photos d'un peu partout. On a des documents aussi bien du 17e siècle que des documents relativement contemporains. On veut en faire un beau livre et première maquette que j'ai vue de certains chapitres, je pense qu'on va y parvenir. Il y a des photos qui sont superbes là-dedans. Mais également, parmi les projets, bien, vous avez cette exposition à la maison Amel Bruno, ici à Québec.
Mm-hmm.
C'est une belle collaboration avec la Ville de Québec.
Ouais.
Et donc, ça visait à exposer 30 documents originaux et une trentaine de reproductions, dans certains cas vraiment agrandies, des pièces de qualité, des photos, par exemple, de Percé ou de la Côte-Nord, où ça occupe presque tout un mur.
Ah oui!
Et c'est donc... L'idée de l'exposition, c'est, oui, souligner le 100e,
mm-hmm,
oui, faire connaître notre mission, notre rôle, mais aussi de faire découvrir la variété des documents qu'on peut avoir, justement, documents écrits, mm-hmm, des cartes et plans, des photos, des films, etc. Donc, avec la Ville de Québec, chaque centre d'archives, parce que les Archives nationales du Québec, qui est une composante de Bibliothèques et Archives nationales du Québec. Ouais. Donc, il y a 10 centres d'archives à travers le Québec, ce qui est quand même assez unique à travers le monde, cette régionalisation au niveau des archives. Donc, chaque centre a fourni quelques documents qui symbolisaient leur région ou qui avaient une qualité particulière. Et à Québec, par exemple, un document que j'aime beaucoup, c'est le plan de Chausse-Gros de Léry de 1727, où on voit la ville de Québec, mais il y a la ville, mais il y a également les projets de développement. Mmh. Construction d'une citadelle à l'emplacement de la citadelle qui sera construite. Par les Britanniques. Vous avez aussi un projet d'agrandissement de la basse ville en gagnant sur le fleuve, projet de fortification aussi. L'enceinte 1744, ben, elle est déjà prévue par Chausse-Gros de Léry 17 ans plus tôt. Donc, pour lui, c'est un document pour vendre des projets, mais pour nous, c'est aussi une représentation de la ville.
Ouais.
Et c'est la seule qu'on a de Chausse-Gros de Léry qui représente la ville de Québec. Et il y en a d'autres, mais ils sont à Aix-en-Provence, aux Archives nationales d'Outre-mer, parce que cette production-là était pour la métropole,
ouais.
pour convaincre le ministre, le secrétariat d'État à la Marine d'investir dans la Nouvelle-France. Mm-hmm. Et donc, à Aix-en-Provence, on va retrouver plusieurs versions à différentes époques de cette carte. Mais l'original de 1727, c'est vraiment une très belle pièce. Donc ça, c'est, moi, c'est un peu un coup de cœur pour la région de Québec, mais également aussi pour d'autres régions. Je pense, par exemple, pour la région d'Outaouais. Un événement marquant, ça a été la grève à Buckingham en 1906. Mm-hmm. Ça a été une grève dure. C'est une entreprise qui contrôlait toute la Basse-Lièvre. Et bon, les ouvriers s'organisent. Il y a grève, évidemment. La compagnie veut essayer de casser cette grève-là. Je dirais, fait appel à des détectives, à des policiers. Et ça devient violent. Et le président du syndicat est tué, de même que le secrétaire trésorier. Puis même on dit à l'époque que les photos de ces deux personnes-là circulaient parmi les policiers embauchés. C'est pas des policiers. On va dire d'une police privée, des gardes. Et il y avait, semble-t-il, des photos de ces gens-là. Et donc, par hasard, ben, c'est des gens qui se font tuer. L'émeute. Et le lendemain, c'est l'armée qui est appelée. Et il y a une belle photo qui est présentée. C'est, on voit un détachement de soldats avec un canon. Imaginez, c'est pas sur dans les Flandres durant la Première Guerre. Non, c'est à Buckingham, au Québec, dans l'Outaouais. Mm. Et ça montre que c'est tout le mouvement syndical hein, qui est interpellé par cet événement-là, la défense des droits, puis finalement la réaction du patronat qui souvent avait l'appui aussi des autorités. On pense à la grève d'asbestos ou d'autres pièces. Donc ça aussi, c'est le genre de document qui est symbolique, qui est important pour la région d'Outaouais, mais aussi pour tout le Québec. Donc, c'est ça. C'est une trentaine de documents
originaux. Justement, je voulais parler de ça parce que, pour remettre en contexte, il y a des gens qui viennent de se joindre à nous. Je parle avec M. Lessard, qui est archiviste pour les Archives nationales du Québec. On parle du 100e anniversaire qui ont organisé une exposition à la maison Amel Bruno et ça va être disponible tout l'été. Il y a 30 documents originaux et autant de reproductions pour un peu donner le goût aux gens d'aller voir ces documents-là, d'aller voir la variété des documents. De ces 30 documents-là, vous m'en avez décrit quelques-uns. Finalement, je vous laisserai continuer. Les 30 documents représentent quoi?
Bien, c'est chaque archiviste. Donc, on parlait de 10 centres d'archives.
Ouais.
Donc, chaque centre a fourni 2, 3, 4 photos, dépendamment de la taille du centre et tout ça. Donc, c'est l'archiviste qui est allé avec des coups de cœur, des photos, des textes qui représentaient sa région ou que lui, personnellement, ça lui disait quelque chose. Mm-hmm. Ça peut être des photos ou des documents qui sont historiquement significatifs. Mais des fois aussi, par exemple, ici à Québec, on a dans le livre d'or de la compagnie Paquette un dessin fait par Hergé, où on voit Tintin et Milou.
Ah oui!
Bien, c'est historiquement, ça a une signification plus limitée pour l'histoire du Québec, mais c'est quand même une belle pièce. Mm. Et ben, c'est exposé. C'est un des 30 documents qu'on va y retrouver avec un beau dessin fait par Hergé en 1965, qui était de passage au Québec.
Mm-hmm.
Et ça donne un exemple. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi?
On parle d'un cahier manuscrit. manuscrit avec des traductions français Wendat, un recueil de mots d'expression Micmac, finalement des transcriptions de ces traditions orales pour montrer l'importance ben aussi avec la réappropriation des langues autochtones par leur communauté.
Mais tout à fait. Prenons le cas de la langue huronne. La langue, officiellement, s'est éteinte à la fin du 19e siècle. Sauf qu'il y a eu une tentative pour, puis c'est en cours, puis pour réintroduire et valoriser cette langue-là. Et bon, ça se fait à partir de quoi? Ben, à partir de dictionnaires anciens, à partir de recueils de mots, à partir également aussi, il y a des Hurons Wendat qui se trouvent dans l'Ouest, en Oklahoma, entre autres, parce qu'il y avait un groupe qui était à la Détroit, puis plus tard sont allés plus à l'Ouest. Bon, à partir de la langue de ces Hurons Wendat de l'Ouest américain, avec ce qu'on a, nous, comme document, ben, on arrive à reconstituer un peu ce langage-là, qui finalement fait partie, les Hurons font partie des Iroquois. Donc, il y a eu cet exercice-là. Aux archives, on a eu quelques personnes qui sont venues, justement, pour essayer de retrouver des documents qui permettent de comprendre l'histoire de la nation Huron-Wendat. Les Micmacs, c'est un peu la même chose. C'est un document relativement récent, 1927, mais ce qui est intéressant, c'est que les missionnaires avaient développé un type d'écriture, des hiéroglyphes propres à la langue Micmac. Et donc, on retrouve ce document-là qui provient des Pères Capucins. Et même si c'est pas 3 siècles, ça reste de l'ordre d'une centaine d'années et ça reste un témoignage intéressant pour l'histoire des Micmacs. Un autre document qui est assez symbolique, c'est le procès de Marie-Angélique, qui était une esclave noire et qui était accusée d'avoir mis le feu à Montréal. Et c'est une partie de la ville qui a été détruite en 1734. Et elle et son complice, qui était un faux saunier, donc un contrebandier du sel qui avait été déporté en Nouvelle-France, donc procès et tout ça. Et ce que je trouve fascinant, c'est qu'on a une pièce qui est exposée, mais dans le dossier qui se trouve à Montréal, puis il y a des pièces aussi à Québec, bon, on a le témoignage de cette personne-là. Et, par exemple, je trouve ça fascinant de dire, elle dit qu'elle est née au Portugal, puis elle s'est retrouvée avec les Flamands, c'est-à-dire les Hollandais qui peuplaient la vallée de l'Hudson. Et après ça, elle s'est retrouvée chez un marchand de Montréal. Donc, par son témoignage, on peut reconstituer son parcours. Et c'est rare que des esclaves ou des servantes ou des domestiques peuvent avoir la parole.
C'est vrai.
Donc, dans les archives judiciaires, on retrouve les mots que ces gens-là ont prononcés, leur perception des choses. Je trouve ça très, très fascinant. Et Marie-Angélique, ben, c'est un symbole aussi au niveau de l'histoire des Noirs. Je pense que ma collègue Denise Beaugrand-Champagne, qui est à la retraite maintenant, mais elle a fait quand même plusieurs choses en lien avec l'histoire de Marie-Angélique. Et donc, nous, on a un document lié au procès de 1734.
J'aimerais ça m'attarder un peu à ce que vous avez dit par rapport à on n'a pas souvent les perceptions, les façons de voir le monde ou juste même leur itinéraire de vie des personnes, peut-être des classes qui étaient plus dans on va dire dans les classes ouvrières, disons. Pourquoi, habituellement, c'est, je suppose, des nobles qu'eux ont le temps de faire ça de leur journée ou c'est quoi l'explication derrière ça?
Bien, il y a plusieurs explications. Premièrement, on est dans une civilisation de l'écrit.
Ouais.
Et donc, qui maîtrise l'écrit maîtrise aussi le savoir, maîtrise aussi la transmission des événements. Mm-hmm. Je pense que Mme Bégon qui écrit, c'est une forme épistolaire, mais c'est comme sous forme de lettre à son fils, qui n'est pas réellement son fils, mais elle raconte qu'est-ce qui se passe à Montréal dans les années 1750. Une servante ne ferait pas ça.
Exact.
Elle ne maîtrise pas nécessairement l'écriture. Généralement, les gens de basse condition sont illettrés. Les gens n'ont pas le temps et pas nécessairement le goût aussi de raconter des choses. Donc, la vision des choses nous vient un peu comme c'est souvent le vainqueur qui dicte un peu le récit de la guerre.
Ouais. Ça, c'est une particularité de l'histoire assez spéciale. Là-dedans.
Oui, puis la même chose pour les Autochtones. Souvent, on étudie les Autochtones, mais à partir du récit des autres, que ce soit les missionnaires jésuites ou...
C'est pour ça qu'on veut maintenant leur donner la parole, pour les entendre, parce que sinon, ben, on se fie à une histoire qui est, qui est décrite, qui est complexe, puis qui peut être détaillée, mais qui n'est pas nécessairement objective. Ben, j'aurais envie de vous poser la question, est-ce que l'histoire peut être objective?
C'est une bonne question, parce que comme on n'a que des traces du passé et que les personnes qui ont laissé des traces, ben, généralement, lorsque tu écris, tu as un but. Tu convaincs quelqu'un de quelque chose. Tu sélectionnes aussi les événements en fonction de tes intérêts. Madame Bégon va parler d'un bal qui s'est tenu chez telle personne, elle va faire des commentaires, mais qu'un tel s'est blessé en construisant telle maison, ça ne l'intéresse pas. Pourtant, peut-être que l'accident est beaucoup plus significatif dans la vie de certaines personnes que le bal fréquenté par Mme Bégon. Donc, d'avoir des positions différentes, je pense qu'aujourd'hui, on essaie d'aller chercher ces éléments-là. On essaie aussi, même nous, tant qu'on décrit des documents, il faut faire attention aussi de la manière dont on les décrit. Parce que nous-mêmes, on est porteurs de notre propre vision des choses.
Tout à fait.
Et les centres d'archives, actuellement, il y a un effort. Je fais beaucoup de centres d'archives pour réviser un peu les choses puis faire attention au vocabulaire qu'on utilise.
Remettre les pendules à l'heure un peu, pas nécessairement juste...
Faut faire attention parce que, prenons par exemple le terme « sauvage ».
Ouais.
Ben, c'est le terme qu'il utilisait à l'époque. Je ne suis pas pour le bannir des documents d'archives, mais je peux faire une mise en garde. Ce qu'on a fait, d'ailleurs, dans notre moteur de recherche Ad Vitam, il y a un petit avis depuis une semaine ou deux qui indique de faire attention qu'il y a des termes qui peuvent offenser des gens, mais aussi, nous, on ne peut pas non plus réécrire l'histoire ou censurer l'histoire. Nous, on présente les traces, mais en ayant le plus de respect possible.
Puis c'est les garder intacts, finalement.
Mais
de
oui,
les
parce
changer,
que...
ça serait d'être un peu... J'aurais envie d'avancer, d'être contre l'éthique d'un archiviste.
Ah, tout à fait. Et puis, les préoccupations actuelles ne seront pas nécessairement les préoccupations dans 100 ans.
Évidemment.
Et donc, il faut faire attention pour ne pas être prisonnier de mode actuel et de faire des dommages irréparables. Donc, il y a ce souci-là, finalement. Ouais. De faire attention, de respecter les groupes, leur donner la parole. Un projet que je trouve intéressant, qui a été fait par Bibliothèque et Archives Canada, ça a été d'essayer d'identifier les personnages sur des photos.
D'accord.
Parce que des photos d'Autochtones, souvent un Indien, ou sans trop de précision. Mais en allant dans les communautés, tout ça, il y a moyen de resituer un peu la photo, hein, qui l'a prise, puis qui est sur la photo. Puis ça donne beaucoup plus de valeur en ayant ce qu'on appelle les métadonnées, des éléments de contexte à cette photo-là.
Bien, c'est un peu ce que j'aimerais conclure avec vous en tant qu'archiviste. Quand on essaie de décrire l'histoire de la façon la plus vrai possible, évidemment, la vérité, je pense qu'on, même dans notre vie, on ne l'aura jamais, mais pour un archiviste, comment est-ce qu'on arrive à essayer de décrire cette histoire-là de la plus... peut-être pas de la façon la plus objective, mais la façon la plus vraie avec tout ce que vous avez entre vos mains?
C'est le défi majeur des archivistes, de constituer une mémoire, puis une mémoire pour le long terme.
Ouais.
Et, par exemple, ça débute par quel fonds d'archives qu'on va acquérir. Est-ce que on se concentre seulement sur des hommes politiques? Est-ce qu'on va chercher d'autres groupes? Au niveau des plans d'architectes, par exemple, est-ce qu'on doit avoir tous les plans de tous les architectes de la province de Québec? Peut-être d'avoir les projets significatifs. Encore là, il faut définir significatif.
Ouais.
Puis des projets représentatifs. D'avoir quelques bungalows de Sainte-Foy, c'est peut-être suffisant pour montrer un peu c'était quoi ce mouvement-là dans les années 50-60. J'ai peut-être pas besoin d'avoir 10 000 plans de bungalows.
Évidemment.
Donc, il y a des choix que les archivistes doivent faire au niveau des acquisitions.
Choix peuvent quand même être, peut-être décisifs dans certaines situations.
Ah, tout à fait. Et contestables aussi.
Ouais.
Parce que l'archiviste est un être humain. Moi, je vais privilégier certaines choses.
Ouais.
J'ai certaines sensibilités. Un collègue va dire non, ça, c'est pas important. C'est résumé dans tel document. J'ai pas besoin d'avoir le détail. Un peu comme lorsqu'on transcrivait des documents en France au 19e siècle. Par exemple, les bordereaux de recettes et dépenses pour la Nouvelle-France, c'était tous les achats et ventes par l'État. Et très détaillé. Lorsqu'il est venu le moment de copier ces documents-là, l'archiviste qui décidait a dit pas nécessaire. Le sommaire existe dans la correspondance officielle.
Ouais.
J'ai pas besoin de ces copies-là. Mm-hmm. Or, aujourd'hui, il y a des mémoires de maîtrise qui se font à partir des bordereaux de recettes et dépenses. Et donc, notre regard est différent. Mm-hmm. Et donc, des documents qu'on aurait jetés ou se départir...
Ben, on va les prendre... trouver utiles maintenant.
Oui. Donc, votre question, elle est tout à fait pertinente. Elle est au cœur de notre mission. Et c'est pour ça aussi que des gens en histoire, c'est intéressant. Parce qu'ils ont la capacité de mettre en contexte et de dire « oui, ça, c'est intéressant pour telle raison. Mm-hmm. » À prime abord, ça ne paraît pas nécessaire de conserver, mais pour telle raison, ça vaut la peine.
Tout à fait. C'est une grosse question de jugement, tout ça, puis ben, c'est pour ça que les gens en font une carrière. Merci beaucoup, M. Lessard, d'être venu me parler de ce 100e anniversaire, de me parler du métier d'archiviste aussi, de me parler de vous, de me parler de ces 30, finalement, de ce contenu qui est exposé. Je vous laisserai le mot de la fin avec toutes les infos à donner pour ces festivités.
Oui, puis je reviens à l'exposition. Hein, c'est la maison Amel Bruno. Hein, c'est sur le chemin Saint-Louis, au 2608. C'est une belle maison qui date de 1857. Donc, l'architecture est intéressante. L'environnement de la maison, c'est beau. Il y a des grands arbres matures, des places pour pique-niquer. Mm-hmm. Et l'exposition, c'est gratuit. Et donc, moi, je vous dis, allez-y avec les enfants. C'est ouvert de 11h à 17h, du mardi au dimanche. Il y a même un petit vidéo à l'entrée, moi, qui m'a fasciné. C'est Québec sait faire 1965. C'est la promotion des produits du Québec, il y a 50 ans. Et donc, on voit qu'il y a des produits qui sont toujours fabriqués au Québec. D'autres, maintenant, sont faits en Chine.
Ouais.
Et donc, on montre, et c'est un peu... On y voit le parallèle avec les paniers bleus. Donc, on voit comment l'achat local... aide à produire. Et il y a une petite fille qui achète une pomme à 5 sous, puis finalement, l'effet que son 5 sous stimule l'économie, à la fin, se retrouve avec 2 5 sous pour acheter 2 pommes.
Wow.
C'est les enfants vont trouver ça charmant, mais il y a matière à discussion. Quels sont les produits qu'on faisait pas? L'importance d'acheter local, etc. Mm-hmm. Donc, c'est à la fois, ça date de 50 ans, mais ça montre une réalité encore...
toujours d'actualité.
Toujours d'actualité.
Bien, merci beaucoup encore une fois. Nous, on va devoir se laisser en musique. Et puis, bien, j'invite tout le monde qui nous écoute à aller à cette exposition qui en vaut la peine, je le crois bien. Merci beaucoup, M. Lessard.
Vous en prie. Bonne journée.
Et tout ce qui se tiendra encore. écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Cet été, Chiz 94.3 redevient baseball et on vous présente les matchs locaux de l'équipe Québec sur les ondes FM. La formation qui regroupe des joueurs des Capitales de Québec, des Aigles de Trois-Rivières et des Titans d'Ottawa disputeront une série de matchs au Stade Canac de Québec. La première série sera du 30 juillet au 1er août contre les Boulders de New York. Toutes les heures complètes seront disponibles sur le chiz.ca.
Sur une distance de 20 verres, la Coupe Vanier au bout du pied.
C'est la main! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Les enjeux de santé te préoccupent? À ta santé, c'est ton émission de radio qui t'en apprend davantage sur la santé globale en te faisant découvrir des experts, des professeurs, des étudiants et des travailleurs passionnés. Entre Planète et Stéthoscope, rejoins-nous un jeudi sur deux à 11h sur les ondes de Chiz 94.3 et en balado-diffusion sur www.chiz.ca.
Les choses sans savoir où tu t'en allais. Dimes, rhymes dans tes oreilles, ça pose la tête aux orteils. Shine bright like a diamond, faudrait que les humains se réveillent.
Je voudrais pas être indiscret, t'en as combien des regrets? Combien de fois t'as fait les choses sans savoir où tu t'en allais? Dimes, rhymes dans tes oreilles, ça pose la tête aux orteils. Shine bright like a diamond, faudrait que les humains se réveillent.
Faudrait
que les humains se réveillent, ouais. Mais faudrait que les humains se réveillent, ouais.
Et vous allez voir qu'en plus de si bien travailler l'art ou l'artisanat, ces gens-là savent très bien s'amuser.
Faudrait que les gens se réveillent, endormis depuis des siècles. Appel à l'aide, mais sans rappel, on fait nos choses, on fait notre baisse. On fait la guerre, on fait la paix. Wake up, faut que tu réveilles. T'es déjà en retard de la veille. Pogné en quarantaine, non, y'en a pas le monde des merveilles. Like, get drunk dans ton appart. Vodka dans limonade. Bof de win non médical. Je veux du green, j'pars en balade. J'suis pas tout seul, j'ai l'équipage. Non, j'suis pas tout seul, j'ai l'équipage. J'suis pas tout seul, j'ai l'équipage. Non, j'suis pas tout seul, j'ai l'équipage. J'suis dans mon vibe, don't get me wrong. J'fais mes affaires, pas le temps d'attendre. Check dans ma tête sur deux secondes. Dès que la mouette t'entends, veux pas. Bring new whip and a bring new phone. J'fais mes affaires, mais n'a fait so strong. J'en ai des pognés, pis tourner en rond. J'en ai des savages, je fais des actions. Passe ma ballon, j'suis dans la zone. Les yeux d'un dragon, le temps d'une seconde. Y'a pas de punition, la balle qui retombe. Les yeux vers le ciel, le fou qui se lion. J'voudrais pas être indiscret. T'en as combien des regrets? Combien de fois te faites les choses sans savoir où tu t'en allais? Dimes, rhymes dans tes oreilles, ça pose la tête aux orteils. Shine bright like a diamond, faudrait que les humains se réveillent.
Wake up mec, t'es boss red. Pourquoi ça joue l'étoffe quand ça lève même pas le bol pour aller aux toilettes? Je suis rentré dans la pièce, tu sens que j'ai l'étoffe et le charisme. Paris BX dans le talis, ça prend du doux dans ta playlist. Hey, c'est qui le cave qui a inventé les barrières? Une carrière et du cash et de trucs j'avais pas hier. Ceux qui suivent les modes vont finir en feu de paille. Je pourrais mettre ma main au feu, je suis prêt à tout parier. Qu'est-ce que tu veux si je parle de même de disparaître au bord de mer? C'est pas de ma faute si le bruit des vagues me paraît être un bon remède. En parallèle, je suis dans les vapes. À la recherche d'élévation, une fleur qui pose dans les flammes, ses pétales en célébration.
Faut que les gens se réveillent, pour chacun de nous, brille une étoile dans le ciel. Si un cheveu sur la soupe, c'est pas si pire, on l'enlève. Combien de fois je l'ai fait sans savoir où je m'en allais?
Je voudrais pas être indiscret, t'en as combien des regrets? Combien de fois t'as fait les choses sans savoir où tu t'en allais? Dimes, rhymes dans tes oreilles, ça pose la tête aux orteils. Shine bright like a diamond, faudrait que les humains se réveillent. Je voudrais pas être indiscret, t'en as combien des regrets? Combien de fois t'as fait les choses sans savoir où tu t'en allais? Dimes, rhymes dans tes oreilles, ça pose la tête aux orteils. Shine bright like a diamond, faudrait que les humains se réveillent.
Vous êtes de retour à l'émission Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. C'est le spécial d'avant mes vacances. Et pour de quoi est-ce qu'on a parlé aujourd'hui à l'émission? Ben, j'ai reçu Elisabeth Dumont pour parler de Sans mur ni billet. J'ai reçu aussi Rénal Lessard pour parler du 100e des Archives nationales du Québec. Je reçois maintenant Alex Télamarche, notre cher chroniqueur habituel. Salut Alex, ça va?
Oui, très bien. Et toi, Félix?
Je me demandais, est-ce que tu es parti en vacances ou tu vas partir en vacances?
Les deux.
Les deux? Quel chanceux! T'as un avant-après. Puis tu as pu voir de l'architecture des paysages. Tu as choisi deux ouvrages pour nous parler un peu de ce paysage québécois, de cette architecture pas nécessairement québécoise. On va commencer par « Paysages ruraux, méthode d'état des lieux et de diagnostic ». C'est de Gérald Daumont et Julie Ruiz.
Je pense que c'est bon.
Oui. Puis avant toute chose, il faut que je salue mon coloc, Joël. Je veux pas l'oublier. Juste pour être sûr, je me l'étais promis de le faire. On rentre dans le vif du sujet. Paysages ruraux, méthode d'état des lieux et diagnostic. Quand tu m'as proposé ce livre-là, j'ai tout de suite lu dans la description que ça visait un public d'étudiants en aménagement paysager. Pourquoi l'as-tu choisi?
Bien, parce que c'est un ouvrage, effectivement, qui est didactique, certes. Ça vise un public d'étudiants en aménagement du territoire et un public d'urbanistes, de professionnels dans le domaine. Mais en même temps, c'est un domaine qui m'intéresse sans pour autant évoluer dans le milieu. Puis, j'avais une curiosité. Donc, j'ai commencé à le lire, puis j'ai fait, mon Dieu, mais c'est intéressant également pour le grand public.
Ouais.
C'est sûr qu'il y a des aspects un peu techniques. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, à la rigueur, on saute ces pages-là, puis on se concentre sur les passages, justement, qui sont un petit peu plus généraux, les passages qui sont plus accessibles. Et même les passages un petit peu plus techniques, si vous vous intéressez à ces enjeux-là, ils demeurent quand même accessibles parce que, vraiment, il y a beaucoup de graphiques, beaucoup d'images, beaucoup d'exemples, beaucoup de tableaux récapitulatifs. Fait que c'est un ouvrage qui nous permet de comprendre un petit peu l'aménagement du territoire de façon accessible et de s'y initier, justement, parce que il est destiné à une clientèle étudiante, mais aussi, je l'espère, à monsieur, madame, tout le monde, comme j'ai envie de vous le dire aujourd'hui.
Mm-hmm. Paysages ruraux, on aborde quoi en termes de territoire, mais aussi en termes d'analyse? Ça ressemble à quoi?
Eh bien, comme tu le mentionnes, ça porte sur les paysages ruraux. Les auteurs font ce constat en introduction. Il existe peu de choses sur les paysages. Au Québec, on s'est beaucoup intéressé à la question du patrimoine, à la question de l'urbanisme. Mais un paysage, c'est des choses sur lesquelles on s'est peu penché. Puis on s'est penché un petit peu sur les paysages exceptionnels, mettons, de Charlevoix,
la Gaspésie,
comme tu le mentionnes. Mais ce qui appelle un petit peu les paysages normaux, si je peux m'exprimer ainsi. Ceux qui sont probablement un petit peu des régions dont tous nos auditeurs viennent. Moi, je viens de Saint-Nicolas sur la rive sud. On a des beaux paysages avec le fleuve en arrière-fond, quelques fermes, un petit peu justement des champs. C'est quelque chose que, quand tu passes devant, tu fais waouh, c'est beau, mais si tu passes devant rapidement, c'est pas par exemple.
C'est anodin.
Oui, ça peut paraître anodin. C'est pas le caractère époustouflant. Les gens se déplacent pas depuis les États-Unis pour voir ça.
Ouais.
Mais on gagne effectivement à mieux voir ces paysages-là. Et face à l'expansion des villes qu'on connaît depuis un certain nombre d'années, que faire avec ces paysages-là? Comment, les protéger, mais aussi comment, les transformer? Parce que l'idée, c'est pas de fixer le territoire puis de ne plus jamais le faire évoluer. Et c'est la question que se posent Gérald Daumont et Julie Ruiz. Et justement, c'est ça. Comment interagir face à ces paysages-là? Qu'est-ce qu'un paysage ruraux? C'est quoi ses caractéristiques? Et qu'est-ce qu'on fait avec?
Fait que toi, tes préférés paysages ruraux, ça serait ta rive sud.
Je dirais que la rive sud a effectivement un certain charme qui est peut-être lié à mes origines.
Ouais.
La région dont il parle dans ce livre, qui est la MRC des Mascoutins, est particulièrement intéressante. C'est toute la région autour de Saint-Hyacinthe, avec justement la rivière Yamaska, beaucoup de champs, mais en même temps, on est quand même relativement proche de Montréal, fait qu'une urbanisation. Et dans l'ouvrage, ce qui est intéressant, c'est que on a souvent des exemples qui nous proviennent d'Europe, de Wallonie en Belgique, de Bretagne en France, d'Angleterre, qui nous permettent justement de mieux saisir comment justement se forme un paysage, comment évolue un territoire. Par exemple, à un moment donné, on a un graphique sur l'évolution de l'occupation du territoire dans la MRC de Lotbinière, où on voit au début, c'est vraiment quelques points ponctuels. Ensuite, c'est vraiment le bord du fleuve avec les seigneuries. Puis, bon, on a des villages un petit peu dans les terres qui se développent avec le chemin de fer. Et finalement, bien, c'est vraiment le long de l'autoroute 20 qu'il y a des nouveaux développements à partir des années 1960. Donc, un ouvrage qui nous permet justement de comprendre le territoire, de comprendre justement ce que les auteurs appellent ces plaines ordinaires recèlent par contre une beauté, recèlent justement un intérêt comme ben, elle montre la couverture, entre autres, tu sais, bon, bâtiment de ferme, petite plaine.
Avec du blanc, du bleu, c'est joli.
C'est ça.
Ça fait québécois.
Exact. Et ben justement, ben comment conserver ces paysages-là? Comment les faire évoluer? C'est la question qu'il pose et à laquelle il propose plusieurs outils, justement, et non seulement une seule réponse là, pour l'évolution des choses.
On parle seulement de la région que tu as mentionnée, de Saint-Hyacinthe, juste avant Montréal, où on aborde aussi, parce que je me demandais, pour les cantons de l'Est, qui est quand même un aménagement particulier, on n'aborde pas cette région-là?
L'ouvrage, justement, propose une étude de cas sur la MRC des Mascoutins, qui est quand même limitrophe avec les cantons de l'Est. Tu sais, Saint-Hyacinthe, on n'est quand même pas si loin de cette région-là. Mais comme je mentionnais, oui, effectivement, on part de cette étude de cas-là, mais on la remet constamment en contexte avec d'autres régions québécoises, notamment les cantons de l'Est. Mais bon, comme je mentionnais un peu plus tôt, Lotbinière, la Gaspésie, etc., et avec des régions en Europe. Un petit peu partout. Donc, ça nous permet de vraiment avoir une vision en fait d'ensemble. Et oui, effectivement, l'ouvrage porte techniquement sur la MRC des Mascoutins, mais dans les faits, je dirais que c'est un ouvrage qui a beaucoup plus d'ampleur.
On a des comparaisons, on a une mise en contexte ou même, pour faire un mauvais jeu de mots, une mise en terrain de cette MRC. Ouais. Est-ce que tu aurais d'autres choses à dire sur ce livre Paysages ruraux, méthode d'état des lieux et de diagnostic ou on passe au prochain?
Pour conclure, justement, qu'on voit à quel point la question de paysage, c'est quelque chose qui est culturel, quelque chose qui est une notion qui est complexe parce que, on peut le voir d'un point de vue environnemental où là, on va voir les plantes, on peut le voir d'un point de vue patrimonial où on va plus voir, comme on le mentionnait sur la couverture, les bâtiments patrimoniaux. On peut le voir d'un point de vue esthétique, artistique, d'un point de vue de l'aménagement du territoire. Ça change en fonction de la culture, ça change en fonction des besoins de l'époque. Donc, c'est un ouvrage qui est intéressant pour réfléchir le territoire, réfléchir le paysage et toujours arriver avec des espèces de petits encadrés, avec des exemples bien concrets qui nous aident à mieux comprendre, nous permettent d'explorer un cas en Europe, au Québec. Donc, un ouvrage qui, oui, effectivement, a priori, s'adressait d'abord aux étudiants de ces deux professeurs, mais qui saura effectivement charmer les gens qui s'intéressent aux questions d'aménagement du territoire et qui ne sont pas familiers avec celle-ci, parce que justement, il y a un côté didactique, il y a un côté facile d'accès, parce que c'est destiné à cette clientèle-là.
Puis j'ai envie de dire, ça va servir aussi à mieux se connaître, mieux connaître notre propre territoire. On peut maintenant passer à l'architecture mobile vers une cité conçue par ses habitants de Yona Friedman. On donne les dates de 1958 et de 2020. Pourquoi? Parce que c'est une étude qui, justement, porte en ces dates-là?
Oui et non, j'aurais envie de dire, parce que Yona Friedman, il est né en 1923 et il est décédé en 2020. En 1956, il sera à un important congrès en architecture et il va proposer l'essence de ce manifeste en architecture qu'il va mettre par écrit 2 ans plus tard, qu'il va publier. Ça va être publié, republié, republié jusque dans les années 1970. Et la version qu'on nous propose aujourd'hui, grosso modo, c'est la version un peu de 1958, la version originale, mais avec toutes ces modifications qui ont eu lieu au cours des années et avec les commentaires justement de l'auteur qui, au moment justement où on travaillait sur le livre, était toujours vivant. Malheureusement, il est décédé vers la fin de l'année 2020. Il n'est plus des nôtres aujourd'hui, mais justement, il propose quelques commentaires en fin de parcours sur l'évolution un petit peu de l'architecture aujourd'hui. L'essentiel du livre, effectivement, c'est une réédition édition de ce manifeste en 1958. Ce jeune architecte qui nous proposait sa vision de ce que devait être l'architecture pour les années à venir. Et comme on discutait un petit peu hors onde, c'est une vision qui est particulièrement novatrice sur certains points et particulièrement, presque de la science-fiction sur d'autres.
On avançait ça. C'est unique. C'est très futuriste. On parlait d'une ville au-dessus d'une ville. Ouais. Mentionne-moi les autres propositions offertes par Friedman.
Peut-être avant de mentionner les autres, allons vers cette ville au-dessus de la ville, le Paris spatial de Friedman, parce que ça risque d'intriguer nos auditeurs, à mon avis. Grosso modo, dans les années 1950, Friedman se rend compte que la ville prend de plus en plus d'expansion avec l'arrivée de l'auto, avec les gens qui veulent avoir des plus grands terrains, etc. Les fameuses banlieues. Et face à l'expansion des villes, il se dit où est-ce qu'on pourrait étendre les villes, et il propose de les étendre au-dessus des constructions avec des bâtiments autoportants pour maximiser l'utilisation du sol, pour qu'il y ait le plus de gens possible qui aient accès au sol, au jardin, à ce genre de choses-là. Et dans certains cas, comme à Paris, pour conserver cette architecture haussmannienne, conserver justement ces bâtiments sans les altérer en construisant quelque chose au-dessus. Un des intérêts de l'ouvrage, c'est qu'à l'intérieur, on a plusieurs croquis faits par Friedman qui nous permettent vraiment de voir un petit peu sa vision de la chose. Dans certains cas, comme on le mentionnait, ça a presque de l'air de sortir de la science-fiction avec justement ces espèces de grands treillis de métal au-dessus des bâtiments haussmanniens pour supporter la ville.
Ça choque un peu entre l'architecture, la belle architecture parisienne avec des... Finalement, c'est très carré, de béton, c'est pas très attirant à l'œil.
Oui, mais faut se replacer dans le contexte. À la fin des années 50, on est vraiment le tout dans le béton. Ouais. C'est l'époque où au Québec, on va construire le calorifère juste à côté de l'Assemblée nationale. C'est l'époque où on construit aussi le campus de l'Université Laval.
Ah, il est beau, hein?
Il y a des choses intéressantes, il y a des choses qui le sont moins. On pourrait en rejaser, mais c'est la glorieuse époque du béton, la glorieuse époque de l'acier. On veut faire moderne. Et c'est ce que nous propose justement Friedman. Donc, il y a des choses qui ont un petit peu moins bien vieilli, comme sa volonté justement de faire une ville spatiale. Mais il y a des choses qui ont mieux vieilli, comme par exemple cette idée de remettre un petit peu les citoyens au cœur de la ville. Parce que ce qu'on voit en fait depuis des siècles, voire des millénaires, c'est toujours souvent un urbaniste ou avant, ça ne s'appelait pas nécessairement comme ça, ou un architecte qui va arriver avec un plan puis il va dire on devrait développer la ville comme ça, faire tel genre de quartier ici, percer telle rue ici, faire telle ouverture visuelle, etc. Et Friedman a l'impression que si ça ne fonctionne pas, c'est parce que oui, effectivement, ces gens-là ont des connaissances qui sont très bonne pour être capable de prendre ces décisions-là, mais ce ne sont pas des citoyens pour autant, et les citoyens ne sont pas assez mis au centre de leur ville et de la construction de celle-ci.
Pour écouter leurs besoins?
Oui, effectivement, et Friedman croit qu'on devrait davantage écouter leurs besoins et que l'architecte ne devrait pas être un peu comme un architecte démiurge, pour reprendre ses mots,
qui vivra pas dans cette ville-là.
Oui, c'est ça, s'impose un petit peu comme une espèce de dieu tout-puissant ou comme quelqu'un qui jouerait à SimCity. Qui construit, mais plutôt doit être un peu comme un avocat ou un médecin qui va être là pour conseiller le patient ou le client ou le citoyen, va être là pour l'accompagner, mais qu'au final, les démarches vont venir du citoyen.
Okay.
Et donc, et pour une formation en architecture des citoyens, pour qu'ils soient davantage au centre de leurs décisions, au centre de leur ville. Il est également pour une ville piétonne.
OK.
C'est quelque chose dont on parle toujours en 2021.
Oui, notamment avec les rues barrées, Saint-Jean, Saint-Joseph.
C'est ça, les rues piétonnes, c'est quelque chose pour lequel il milite dès les années 1950. Il devrait avoir davantage de place pour les piétons, pour les déplacements actifs.
Est-ce qu'il parle un peu du vélo?
Le vélo, il en parle moins. Il parle effectivement surtout des piétons. Mais on voit effectivement une volonté de maximiser l'espace. Puis cette maximisation de l'espace-là, elle passe aussi par des villes-ponts.
Ça, c'est spécial. Ouais. On parlait peut-être d'avoir un pont qui relie, la grande région de Tadoussac avec Rimouski. Ça serait un très long pont, mais selon Friedman, on pourrait en profiter.
Exact. Ben, Friedman, bien entendu, bon, c'est ça, il écrit en France, donc il ne parle pas nécessairement de Tadoussac et Rimouski.
Non,
mais
c'est ça.
Les exemples qu'il propose, par exemple, c'est de faire un pont au-dessus de la Manche. La Manche, si je ne m'abuse, c'est quoi? C'est peut-être un 35 km.
C'est pas rien.
C'est, mais enfin, là, j'ose pas trop m'avancer parce que j'aurais peur de me tromper. Mais bon, c'est quand même un bon bras de mer. Tu sais, tout en étant. Tu sais, c'est long, mais c'est quand même jouable. Et donc, lui, ben, pour, bon, mettons des petits ponts qui font seulement 500 mètres ou 1 km, ça vaut pas vraiment la peine, à son sens, de développer une ville dessus. Mais pour les ponts qui ont plus d'ampleur, ce qu'il propose, c'est justement de les faire plus larges, de développer une utilisation de cette infrastructure. Tu sais, on revient avec un peu l'idée, justement, des structures autoportantes, de l'architecture mobile. On avait vu qu'il voulait faire des choses au-dessus des villes. Ben, là, il veut faire des choses au-dessus de la mer. c'est quelque chose qui a déjà existé. Tu sais, quand on regarde, mettons, à Paris ou à Venise, au Moyen Âge, il y avait ces ponts qui étaient couverts de maisons. Il y avait une rangée de maisons de chaque côté qui était utilisée. Puis bon, on en trouve encore un peu en Italie. En France, bon, ça a disparu. Mais lui, ce qu'il propose, c'est quelque chose qui a encore plus d'ampleur, avec vraiment des quartiers, un pont qui a vraiment une grande largeur. Et donc, c'est de mieux utiliser l'espace, de penser différemment l'espace. Et c'est sous forme de texte quand même assez court. C'est bon, un petit ouvrage format poche qui fait à peu près 300 pages, 330 pages à peu près, et qui est constitué de petits textes qui font peut-être 5-10 pages, qui nous permettent justement, bon, d'entrer dans chacune de ces idées, le Paris spatial, la ville pont, la ville justement climatisée, donc de mettre une structure au-dessus pour garder l'air frais. C'est ça, on en revient toujours effectivement à la volonté de mettre des choses au-dessus.
Ouais.
Ça, c'est vraiment une idée forte
chez
Friedman.
Ben, je pense que ça fait pas mal à tort, à moins que tu veuilles conclure avec Friedman.
Ben, un petit ouvrage poche, ben, en fait, c'est ça, de format poche, pardon.
Ouais. Il était intéressant.
Qui, ben, justement, nous permet à la fois de voyager dans le temps et de voir à quel point l'architecture a évolué depuis les années 1950, tout en voyant ben, ce côté-là un petit peu assez novateur qu'avait Friedman dans les années 1950. Ouvrage qui se lit bien, avec beaucoup de croquis assez sympathiques, parfois surprenants, qui nous permettent justement de voir vraiment sa vision au-delà des mots et vraiment de les voir en dessin. Donc, un ouvrage qui va intéresser ceux qui s'intéressent à l'architecture, qui peut être un petit peu technique par moment, mais qui, encore une fois, grâce aux croquis, grâce au fait que ça soit des textes courts, demeure accessible et demeure fascinant, justement, pour plonger dans cette vision de science-fiction, mais aussi dans cette vision, bon, avant-gardiste.
Merci pour ces deux livres. On vient de parler de l'architecture mobile de Yona Friedman. On a parlé aussi de paysages ruraux de Gérald Daumont et de Julie Ruiz. Merci d'être venu me parler de cet aménagement, des fois qu'on trouve anodin, mais aussi qu'on peut faire allusion à la science-fiction. C'est assez intéressant cette semaine. Merci, Alex.
Ben, ça fait plaisir. Puis ben, des bonnes vacances et profite bien justement des paysages et de l'architecture qui vont être offerts.
J'y veillerai. Merci. On se revoit dans la semaine du 16 août.
C'est
disons
bon.
Ça comme ça. Salut.
C'est le secrétaire. When it comes to this music, no, I cannot. Got so much on my mind, it comes from it all. I'ma spray it when my niggas up. One time, it ain't music, I don't give a fuck. I pay no mind. Busy bitches tryna hit me up. Oh my, they get good cause mama see the five. Ain't no bench chime. A chip on your shoulder, what can I say? Niggas be jealous, too proud to pray. Keep it a buck on each of my plays. Kept this so much, I keep losing friends. Got my finger crossed, bet it on the next song. Niggas hit me up, ain't got time to keep them. Busy moving this, even when it's Christmas. Niggas partying, but the bitch ain't can't let. Nah, nah. Make a move, make it different. Niggas out here begging for the million. Nah, 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 nah. When it comes to this music, no, I cannot. Got so much on my mind, it comes from it all. When it comes to this music, no, I cannot. So much on my mind, it comes from it all. When it comes to this music, music, keep it a bug. I do it, ain't nothing for me anymore.
nothing for me outside that. I'm a lonely nah. Ain't my mamacita, come closer. I'ma show you magic, got a couple tricks. Got so much, it's ridiculous. I put you on my Christmas list. When it comes to this music, no, I cannot. So much on my mind, it comes from it all. When it comes to this music, no, I cannot. So much on my mind, it comes from it all.
Vous êtes de retour à l'émission Chérie, j'arrive. C'est déjà le temps de se laisser. Pour la conclusion, c'est terminé 7h30 d'avant-vacances. Et ben, de quoi est-ce qu'on a parlé cette émission? Je vous fais la liste. On a commencé avec Sans mur ni billet, qui est un projet qui regroupe 16 organismes et aussi 11 stations à découvrir. Il y a Elisabeth Dumont qui est venue me parler de ça. C'est la responsable des communications au théâtre Labordé. Je vous ai fait écouter beaucoup de musique aussi que j'ai pas eu la chance de vous faire entendre parce qu'on était sur la route pour couvrir les festivals. Je vous ai fait entendre Lewis Dice, Madeline, Virginie B, nouveau single avec Calamine, ça vaut la peine. Je vous ai aussi fait entendre Beluga avec son fameux single Capozzo. J'ai parlé avec Renal Lessard, archiviste coordonnateur aux Archives nationales du Québec à Québec, pour me parler du 100e anniversaire de Archives nationales du Québec. C'est une exposition qui est sur le chemin Saint-Louis, ça vaut la peine. Je vous invite à aller visiter. Il y a 30 contenus qui vaut la peine absolument. Vous avez entendu aussi Laura Lefebvre, vous avez entendu Dimes aussi, et on a parlé avec Alex T. Lamarche de architecture et de paysage. C'était super intéressant de savoir comment aménager notre territoire et peut-être avoir des idées qui sortent un peu de l'ordinaire. Moi, je vous dis à dans 2 semaines, et oui, je m'en vais sur la route. On va peut-être se croiser, qui sait. Je m'en vais dans la métropole montréalaise, je m'en vais aussi plus en région. Je vais faire tout le tour. Je vais me reposer pour revenir plus en force à partir du 16 août. Donc, manquez pas ça. Pour la semaine prochaine, Gabriel Arcan, le co-animateur habituel qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui, va justement vous faire une suite. Il va garder la structure de Chérie J'arrive pour la semaine prochaine. Il va aussi aller en Acadie pour le Festival de musique de Caraquet. Festival aussi qui a d'autres choses que de la musique. Il va tout vous expliquer ça. Il y a congé demain, donc beaucoup de choses à l'horaire. Manquez pas ça. On se retrouve le 16 août. Bye bye. Ciao.
T'as soif de musique et de petites limonades sucrées? L'équipe de Chiz 94.3 te propose, de façon bimensuelle, la playlist d'un ou d'une des employés. Tous les mercredis dès 13h, manque pas la playlist 2. Question de rajouter un peu de glucose fructose auditif à ton été.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Vous ou un proche vivez avec une perte de vision? Peu importe où que vous soyez dans votre cheminement, la Fondation INCA est là pour vous. Que ce soit des formations en technologie adaptée, des groupes d'entraide, des activités éducatives pour les jeunes ou du soutien à l'emploi. Nos programmes gratuits permettent aux personnes touchées par la perte de vision de vivre la vie qu'elles ont choisie. Visitez inca.ca ou appelez-nous au 1-800-465-4622.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Cet été, Chiz 94.3 redevient baseball et on vous présente les matchs locaux de l'équipe Québec sur les ondes FM.
La formation qui regroupe des joueurs des Capitales de Québec, des Aigles de Trois-Rivières et des Titans d'Ottawa disputeront une série de matchs au Stade Canac de Québec.
première série sera du 30 juillet au 1er août contre les Boulders de New York. Toutes les heures complètes seront disponibles sur lechiz.ca.
Viens faire retour à terre, viens voir.